et journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Pour l'instant, il ne s'agit que de mots, mais ils sont très forts. La Pologne répond aux critiques d'Emmanuel Macron qui qualifie d'erreur sa position sur les travailleurs détachés. Varsovie estime qu'il s'agit de propos arrogants et demande au président de s'occuper de ses affaires. Analyse de Maya Szymanowska. Nous verrons aussi avec Marie Viennot que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'oppose aux Polonais. Dans le reste de ce journal, la fuite de l'ex-première ministre de Thaïlande à l'étranger. Elle ouvre un boulevard à la junte militaire, nous dira Arnaud Dubus. Et puis nous verrons avec Éric Biegel Gala, qui sont les rebelles Rohingyas qui se révoltent aujourd'hui dans l'est de la Birmanie. Un assaut contre des postes frontières a fait plus de 70 morts. Du grain à moudre d'été avec vous, Mélanie Chalandon.
Eh bien, on parle des colonies de vacances ce soir. Espace de loisirs, d'apprentissage et surtout de rencontres. Les colos sont-elles encore ce laboratoire du vivre ensemble qu'elles défendent? On en débat avec quatre acteurs et observateurs des colos et de l'éducation populaire. Jean-Carl Deschamps, Jean-Marie Bataille, Isabelle Forté, Monforté et Mathias Lamar.
Ce sera vers 18h15. Peut-on déjà parler d'une vraie crise diplomatique entre Paris et Varsovie au centre de la querelle? La directive sur les travailleurs détachés que le président français Emmanuel Macron veut voir bouger quand la Pologne, elle, plaide le statu quo. On connaissait les positions réciproques, mais le ton est devenu très vif depuis ce midi. Emmanuel Macron parlant depuis une autre capitale, la Bulgarie voisine, d'une Pologne qui commet une erreur, qui se place en marge de l'Europe, qui ne saurait lui donner son sens et qui va à l'encontre de ses valeurs. Valeur fondamentale. La réponse de Varsovie ne s'est pas fait attendre. La première ministre Beate Szydło parle de l'arrogance française. Sur place, à Varsovie, Maya Szymanowska.
Effectivement, la première ministre Beata Szydło a traité les propos d'Emmanuel Macron d'arrogant. Elle est même allée plus loin en remettant en cause la compétence du président français. Peut-être ces paroles arrogantes sont-elles dues à son manque d'expérience et de pratique politique. « Ce que j'observe avec compréhension », a-t-elle déclaré à un portail conservateur, et d'ajouter « Je conseille à Emmanuel Macron de s'occuper des affaires de son pays ». Le ministre des Affaires étrangères Witold Waszczykowski lui a emboîté le pas. La Pologne n'est pas isolée, la preuve, je viens de rencontrer le secrétaire général de l'OTAN et les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de la Roumanie, a-t-il déclaré. Des propos moqués tout de suite par les commentateurs. La politique isolationniste des conservateurs du droit et de la justice exaspère et inquiète l'opposition. La star des médias indépendants, Tomáš Liš, a regretté que la Slovaquie et la République tchèque allaient rejoindre l'Europe de Macron tandis que la Pologne allait rester dans son village moyenâgeux. Car ce vent froid qui souffle sur les relations entre Paris et Varsovie ne date pas d'hier. Il a commencé à souffler avec l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Il est devenu glacial depuis la rupture par les Polonais du contrat de 2,4 milliards d'euros pour l'achat des hélicoptères français Caracal. La question des travailleurs détachés et les récents échanges ne sont pas prêts à arranger les choses.
Maya Szymanowska à Varsovie, merci. Alors sur le fond, on l'a compris, les deux pays s'écharpent sur leur vision de la directive européenne qui concerne les travailleurs détachés en ce moment. Au moins. Or, ce n'est pas la première fois que le sujet émerge. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir Tara.
On peut noter qu'un premier conflit avait déjà éclaté à l'époque où Emmanuel Macron était à Bercy.
Oui, c'était en juin 2016, quand Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie. Lors d'une réunion des ministres européens des transports, la Pologne avait dénoncé la France après la publication d'un décret d'application d'un article de la fameuse loi Macron de 2015. Cet article de loi, le 280, avait pour but de lutter contre la concurrence des pays de l'Union européenne dans le domaine du transport routier. Pour cela, il imposait et impose toujours que les routiers qui déchargent leurs marchandises en France soient payés au moins au SMIC français pour les heures travaillées en France. L'argument, c'était que les travailleurs venus des pays où le coût du travail est moins cher dans l'Union européenne n'étaient alors même pas assujettis aux règles du travail détaché. L'argument de la Pologne, lui, était que cette nouvelle règle allait, je cite, « avoir un impact négatif sur le fonctionnement du marché intérieur, comprenez, sur son secteur routier ». Sept pays l'avaient alors suivi dans cette dénonciation. Lituanie, Lettonie, Estonie, République tchèque, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, mais aussi Espagne, Portugal et Irlande. La commissaire européenne au marché intérieur, elle-même polonaise, avait alors pris fait et cause pour ces pays en lançant une procédure d'infraction contre la France et l'Allemagne, Berlin ayant pris le même type de mesures, mais il n'y a pas eu de suite notable. En tout cas, ce n'est donc pas la première fois que le gouvernement polonais se retrouve en opposition frontale avec Emmanuel Macron et la France. Après l'échange d'aujourd'hui, on sait maintenant que deux blocs s'affronteront au moment des discussions sur la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Chacun va donc former son camp dans les semaines qui viennent. Vienne. Le président français sera lundi à Luxembourg, un autre pays concerné par le sujet.
Merci beaucoup Marie Viennot. On aura noté cette vraie liberté de ton d'Emmanuel Macron pendant sa tournée est-européenne qui s'achève en Bulgarie. On vient de souligner les propos plus diplomatiques échangés avec la Pologne. Le chef de l'État avait aussi estimé, c'était hier, que le peuple de France déteste les réformes, ce qui lui vaut une réponse, là encore, assez vive des syndicats. Les Français ne sont pas des imbéciles, a dit en substance la CGT. Ce qu'ils rejettent, ce sont les mauvaises réformes. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Tara.
Voilà pour les amabilités. Alors on sent qu'Emmanuel Macron n'a pas sa langue dans sa poche en ce moment. Peut-on parler d'une communication délibérément offensive à la veille de la rentrée?
Disons qu'il y a un véritable changement de pied, puisqu'au lendemain de son élection, en mai dernier, Emmanuel Macron avait pensé ton. Donner le ton en expliquant que lui, président, il ne parlerait pas des affaires franco-françaises depuis l'étranger. Ses équipes avaient également expliqué qu'il faudrait s'habituer à une parole rare de la part du chef de l'État. À ce moment-là, Jupiter campait sur son Aventin, il voyait haut, pensait grand, parlait loin. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, Emmanuel Macron est descendu de la colline pour entrer dans l'action et ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu. Sa popularité commence à s'amenuiser, même s'il ne faut peut-être pas donner trop de crédit à des sondages réalisés au cœur de l'été. Le message sur le transfert des cotisations sociales en direction de la CSG et tout le bénéfice que sont censés en tirer les salariés a du mal à imprimer dans l'opinion. Il y a des manifestations en préparation sur la réforme du Code du travail. Bref, à mesure qu'on passe des propositions du candidat à l'action du président Macron, on a l'impression qu'il est en proie à une certaine fébrilité et du coup qu'il est tenté d'adapter, de modifier ce qu'il avait théorisé. Puis, il y a François Hollande qui l'a un peu agacé. François Hollande qui a pris la parole à deux reprises pour expliquer à son successeur ce qu'il convenait de faire et de ne pas faire. Si on examine bien ce qu'a dit Emmanuel Macron sur les affaires françaises depuis les balcons, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce sont des réponses faites à l'ancien président. Hollande le met en garde sur le risque de demander des sacrifices inutiles aux Français. La France est le seul pays à n'avoir pas su gagner la bataille du chômage de masse, lui répond Macron. Hollande s'attribue les mérites de l'embellie économique. La France est un pays qui n'aime pas les réformes, lui répond Macron. Il faut lui proposer un projet de transformation qui soit plus grand qu'elle, comme s'il disait à l'ancien président « Toi, tu n'as pas su le faire ». Il y a donc de la fébrilité et de l'affect chez Emmanuel Macron, ce qui a quelque chose de rassurant, puisqu'au bout du compte, il nous montre ainsi que le président jupitérien conserve quelque chose de l'être humain.
Analyse signée Stéphane Robert. La concertation avec les syndicats sur le code du travail touche à sa fin aujourd'hui. Pour l'instant, les centrales sont très prudentes car elles n'ont pas eu accès à la totalité des ordonnances. Elles veulent attendre le 31 août pour entrer justement dans les détails qui fâchent. En bref, encore la mise en examen du grand policier, l'ancien patron de la lutte antidrogue, François Thierry, qui est poursuivi pour complicité de trafic et d'exportation de stupéfiants en cause après la saisie en 2015 de 7 tonnes de cannabis en cause. C'est relation avec un indic considéré comme l'un des plus gros dealers en France. Et puis on pouvait s'en douter, l'année va être très compliquée pour les viticulteurs français. La récolte pourrait être la plus modeste depuis 1945 en raison du gel de ce printemps en particulier. On parle d'une production en baisse prévisible de 18% par rapport à l'an passé alors que déjà en 2016 les vendanges avaient été catastrophiques. À l'étranger, à Kaboul, l'État islamique a attaqué une mosquée chiite. 10 fidèles au moins ont été tués, tout comme 3 policiers afghans. Le bilan est encore provisoire. Revenons maintenant sur l'attaque de plusieurs postes frontières dans l'ouest de la Birmanie, dans l'État Rakhine, où vit la minorité Rohingya. Depuis ce matin, des dizaines d'assaillants ont pris d'assaut des commissariats et probablement une base militaire. Les bilans sont encore flous, mais il y aurait plus de 70 morts. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Les Rohingyas sont cette minorité musulmane apatride dont la Birmanie ne veut pas et qui sont régulièrement victimes de tortures, d'exactions de la part de l'armée birmane. Des centaines de milliers d'entre eux sont d'ailleurs réfugiés au Bangladesh. Mais la révolte de ce vendredi montre qu'ils ont commencé à s'organiser dans l'État Rakhine, depuis un certain temps d'ailleurs. Alors que sait-on de ce mouvement armé Rohingya?
Il s'agit de l'ASRA, l'armée du salut des Rohingyas d'Arakan, comprenez de Rakhine. Formellement, le mouvement est né il y a moins de 6 mois par une proclamation revendicative, un tract si vous voulez, de 4 pages, distribué sur Internet le 29 mars dernier. Il y est dit que l'armée du salut est la continuation d'un précédent mouvement de la foi, ou Araka al-Yaken, qui lui-même n'avait pas plus de 6 mois d'existence, mais qui avait déjà revendiqué les attaques contre 3 postes frontières entre la Birmanie et le Bangladesh en octobre 2016. Action qui avait déclenché en retour la féroce répression de l'armée birmane dans le nord de l'État Rakhine, forçant à l'exil plus de 70 000 Rohingyas depuis l'automne dernier. Le groupe ASRA a été créé par des Rohingyas en exil, notamment son chef, Ataullah, alias Abu Abu Ammar Jununi, né au Pakistan et élevé en Arabie Saoudite, Ataullah a manifestement reçu un entraînement à la guérilla, peut-être en Afghanistan ou au Pakistan. Les tactiques employées par l'ASRA, tant l'an passé que ces dernières heures, notamment l'emploi de mines artisanales pour viser les convois militaires birmans arrivés en renfort, montrent en tout cas que le groupe a reçu une certaine formation à l'art de la guérilla. Il serait constitué de quelques milliers de Rohingyas, villageois de Rakhine ou expatriés au Bangladesh voisin. Selon une étude publiée par l'International Crisis Group, seule entité ayant pu s'entretenir avec des cadres du mouvement. Présenté par le pouvoir birman comme un groupe terroriste islamiste, l'ASRA ne professe pourtant pas, notamment dans sa déclaration de mars dernier, la moindre revendication islamiste ou djihadiste. C'est tout juste d'ailleurs s'il se réfère à l'islam. Il y annonce explicitement en revanche rejeter toute action de type terroriste et ne pas vouloir s'en prendre aux civils, quelle que soit leur religion. Quant à ces 20 revendications, également contenues dans le tract du 29 mars, elles portent toutes sur des droits fondamentaux actuellement déniés aux Rohingyas en Birmanie, comme par exemple le droit basique à la citoyenneté ou la liberté de mouvement dans le pays.
Merci beaucoup Eric Biegala. En Thaïlande, plus de mystère. L'ex-première ministre a bien choisi l'exil. Yingluck Shinawatra va échapper à la justice qui la condamnera probablement. Le verdict était attendu ce matin. Il sera donc rendu en son absence. Elle rejoint son frère Thaksin, l'autre égérie du clan Shinawatra, lui aussi écarté par les militaires en 2008. L'influence politique de la famille paraît donc véritablement mise à mal aujourd'hui. C'est une analyse à Bangkok d'Arnaud Dubus.
La fuite à l'étranger de Yingluck Shinawatra est pain béni pour les généraux au pouvoir. Ceux-ci se débarrassent ainsi de leur principal ennemi politique, la seule politicienne avec suffisamment de charisme pour galvaniser les forces d'opposition. Menacée d'une lourde peine de prison si elle revient en Thaïlande, il est très probable que Yingluck va devoir passer sa vie à l'étranger, au moins à moyen terme. Les militaires ont aussi beau jeu de pointer du doigt le fait que Yingluck se dérobe à la justice afin de réduire sa popularité. Même si une portion importante de la population, surtout dans le nord-est, est mécontente sous la férule de la junte, il n'y a désormais aucune figure politique en Thaïlande qui puisse organiser ce courant d'opposition. Les militaires auront donc tout loisir de contrôler le jeu politique lors des élections de l'an prochain. Ils pourront se maintenir sous une forme ou sous une autre au pouvoir, aidés en cela par une constitution taillée sur mesure. Le départ de Yingluck va affaiblir considérablement son parti politique, le Parti pour les Thaïlandais. Des petits partis, pilotés par les militaires, vont pouvoir remplir le vide, d'autant plus facilement que la constitution défavorise les grandes formations politiques. On va donc assister à une recomposition totale du paysage politique durant les prochaines années. Il est en effet douteux que Yingluck puisse exercer une influence sur la scène nationale à partir de son lieu d'exil, comme l'a montré l'expérience de son frère, l'ancien Premier ministre Thaksin.
Arnaud Dubus à Bangkok. C'est une menace à coup de tweet, encore sourde pour l'instant, mais une directive serait bien en préparation à la Maison-Blanche. Donald Trump ne veut plus de personnes transgenres dans l'armée américaine. Le président a consulté ses généraux, ses experts militaires, et il affirme donc que la présence de ces soldats est très perturbante, que l'armée doit se concentrer sur des combats décisifs. Il fustige aussi les coûts médicaux démesurés et le désordre occasionné par ces GIs. Bref, Donald Trump a tweeté en juillet qu'il allait leur interdire de servir dans l'armée. La menace inquiète évidemment ces soldats transgenres et les associations qui luttent pour les droits des LGBT. C'est un reportage à New York de Daniel Hoffman.
En 14 années de service, Ivan Yang a dû garder le silence et faire croire qu'il était une femme alors qu'il se sentait homme. La règle dans les années 90, c'était le « don't ask, don't tell », c'est-à-dire l'interdiction faite aux militaires d'afficher leur orientation sexuelle sous peine d'exclusion. Mais peu de temps avant de quitter l'armée, Ivan a eu de plus en plus de mal à cacher son identité.
J'ai commencé à prendre des hormones. Mon apparence physique a changé, ma voix est devenue plus grave. Le commandement a lancé une enquête pour savoir si j'étais transgenre. Mais il n'avait pas de preuves. J'ai eu la chance de m'en sortir en prenant ma retraite à ce moment.
En 2011, Barack Obama a mis fin au Don't Ask, Don't Tell, autorisant les militaires homosexuels à faire leur coming out. Mais il a fallu attendre 2016 pour que la législation s'applique aux transgenres. Les tweets de Donald Trump font craindre à de nombreux groupes de défense des droits des transgenres un retour en arrière, comme explique Drew Levasseur, avocat pour l'association Lambda Legal.
Ça met les gens qui ont fait leur coming out dans une situation très difficile. Ils ont changé de vie en se fiant à la nouvelle réglementation. Le fait que le président menace de leur retirer leurs droits met la vie de ces personnes en péril.
people's lives on the line.
Aucune nouvelle loi n'a été annoncée par Donald Trump, mais Tanya Walker, militante LGBT, ancienne militaire transgenre, pense que les tweets du président avaient un but plus politique.
Je crois que c'était un message pour sa base. Comme il n'a pas réussi à réformer le système de santé, il s'est tourné vers les personnes les plus vulnérables de la société, à savoir les transgenres. C'est dur pour eux de trouver du boulot, de faire de bonnes études, d'avoir un logement correct ou simplement d'être respecté en tant qu'être humain.
On estime à plus de 15 000 le nombre de transgenres dans l'armée américaine, ce qui en fait le principal employeur pour cette communauté.
À New York, Daniel Hoffman, un mot du temps avec d'abord au Texas la préparation de l'arrivée de l'ouragan Harvey qui est prévu à l'aube demain matin. Des dizaines de milliers d'habitants sont en train d'évacuer la zone. Les vents pourraient dépasser les 200 km/h. Et puis en France, le temps sera beaucoup plus calme. Un peu gris le matin, plus agréable ensuite avec des températures de 14 à 20 degrés le matin. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.